Podcast.com. Essaye ça. Le Crachoir, épisode 204. Papal Don't Preach! Martin, comment vas-tu?
Ben, ça va bien. On s'approche du beau temps de plus en plus, en tout cas pour certains, vivant en Abitibi-Sud, de 7 heures plus haut, mais ou plus bas, en fait. Mais non, ça va super bien. Je suis ben content. Puis j'ai eu beaucoup de... Ça a été des grosses semaines. La dernière est pas pour les raisons dont on est habitué généralement. Ben du branle-bas, puis du mouvage de studio, puis tout ça, comme ceux qui sont avec nous, les membres du All Stake peuvent le voir. Mais sinon, écoute, ça va bien. Et moi, écoute, demain, ça va être une journée absolument apocalyptique. Oui. Puis ça me tente vraiment de commencer avec ça dans... Frank, demain, j'ai deux prédictions.
Ouais.
Dans Marie-Victorin, il va y avoir une défaite de Anne Gazaboigne.
OK.
Et à la fin du processus, on va nous présenter ça comme une victoire.
Effectivement. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir de combien elle va perdre. Si elle a un pourcentage de vote ridicule, ça va être ça va être intéressant de voir les pirouettes d'Éric Duhaime pour essayer de présenter ça comme un avancement, comme une avancée, comme une progression de son parti. Quoique, elle réussit quand même à ramasser certains votes, ça pourrait être plus facile pour Éric Duhaime, puis ça pourrait encourager... certains fans, parce que je dis pas supporters ni partisans, mais c'est des fans du PCQ. Fans, ouais. J'ai hâte de voir comment il va... quels seront les résultats, et deux, comment le duémagogue va les spinner à son avantage. Puis comment ça va marcher. Hein? Parce que moi, j'ai l'impression que même si elle a 0,1%, il va trouver une façon de spinner ça.
Ben, moi, je peux déjà te le dire. T'sais. Vas-y. Tu sais, une année d'élection, lorsqu'il y a des partiels, ben, tu sais, on serait en droit de s'imaginer, tu sais, que ça va un peu faire figure de baromètre, tu sais. Ouais, mm-hmm. Bon, là, l'excuse parfaite, c'est que c'est un château fort du PQ, Marie-Victorin. OK, ça, c'est la première affaire. Fait que là, ça va commencer par, on le savait dans quoi on s'embarquait, Marie-Victorin est un château fort de... Puis blablabla. Fait que, tu sais, c'est toute la stratégie d'Éric Duhaime tourne autour du fait suivant. C'est que si tu pars de zéro, 1%, c'est gigantesque. Tu comprends? Ouais, ouais. Ça va toujours être ça. On le sent, on sent déjà le narratif tourner autour de ça. C'est correct. C'est de bonne guerre. C'est correct. Sauf que, ben, tu sais, que ce soit 7% ou 9% comme dans les derniers sondages qu'on a vu, ou que ce soit 11, ou tout est spinable. Fait que si c'est 11, les sondages nous disaient 9, fait qu'on a fait mieux que ce qu'on s'attendait de nous autres. Après ça, ben si c'est la meilleure performance du Parti conservateur dans cette circonscription depuis toujours, ben c'est notre meilleure performance depuis toujours.
T'sais, il va trouver à twist.
Oui. Ben oui, il va la trouver, puis tu sais, c'est son métier, c'est ça dans quoi il est le meilleur, tu sais, c'est ça qui fait qu'il est là, c'est ça qui fait qu'il est encore en train de passer à gratte puis le grader dans toute la population conspitoyenne, puis tu sais, je veux dire, c'est même plus, ça, il s'en cache même plus, quand t'es rendu à avertir le monde de pas faire de joke plate quand le premier ministre et a la COVID, c'est parce que t'es connais tes électeurs.
Je m'en allais là, tu sais, il s'embarque pas là-dedans avec des électeurs réguliers d'un parti comme régulier. Admettons que c'était, je sais pas, le PQ. Puis qu'il y avait des résultats décevants, ben là, ça serait difficile parce que le PQ a déjà été au pouvoir. Puis parce que là, il part de zéro. Puis aussi, les électeurs du PQ sont exigeants dans le sens que ça fait longtemps qu'ils suivent la politique. Puis ils sont avec le PQ pour toutes sortes de raisons. Tandis que ceux qui trippent sur le PCQ, ils sont encore en lune de miel avec le parti. Puis un parti qui a pas fait ses preuves dans rien, là, ni dans l'opposition, encore moins au pouvoir, ils ont rien fait encore. C'est à peine s'ils existent, le Parti conservateur. Puis, c'est ça qui est spécial, c'est que leurs électeurs, il y a une ferveur dans leur électorat qui est même pas comparable à aucun autre parti, même les partis, je sais pas, la CAQ qui est au pouvoir n'a pas de fans finis comme le PCQ. C'est ça l'avantage du PCQ quand Éric va aller spinner ses affaires, c'est que le public lui est acquis. Ouais, c'est ça, c'est des fans. Tu sais, quand je sais pas, le Parti québécois ou le Parti libéral, tu vas être beaucoup critiqué par ton propre parti parce qu'ils ont des attentes, parce que il faut que tu livres, il faut que tu fasses la job, il faut que tu représentes bien le parti auquel ils souscrivent souvent depuis longtemps. Tandis que là, c'est un fan club. Fait que peu importe ce qu'il va dire, il va se faire applaudir. Peu importe comment il va spinner ça, ils vont gober ça. Tu sais, même si c'est la pire des défaites, il peut le présenter en victoire, pis ça marche pareil. Pis ça marcherait pas avec un autre parti. Fait que Éric Duhaime, c'est comme la gig de sa vie là. C'est comme la job la plus facile. C'est le même métier qu'il faisait un peu avec l'ADQ, Mario Dumont. Sauf que là, c'est un fan club, c'est une autre dynamique. Fait qu'il peut dire n'importe quoi, puis il peut présenter des défaites comme des victoires, et c'est ce qu'il fait, et ça fonctionne beaucoup, ça fonctionne très bien. Puis moi, j'ai hâte de voir justement, c'est ça, ça va être quoi le show après la défaite de Anne Cazapobonne. Mais je trouve que il l'a facile, Éric.
Ben. Tu sais, on va en parler beaucoup, là, parce que demain, justement, c'est la partielle. Puis, moi ça, là, je serais curieux, parce qu'on a on a des abonnés, mon cher Frank, qui sont en grande proportion plus intelligents que moi et toi. Mm-hmm. Et je serais curieux de savoir, moi, combien il existe... À combien de reprises, mettons, je prendrais au Québec, là, à, puis je le sais, je suis très conscient qu'on peut avoir des René Lévesque là-dedans, puis tout, c'est correct, là. Mais combien de fois c'est arrivé que là, pendant une course électorale, pendant une campagne électorale, là, tu sais, la date n'a pas sorti encore, mais tu sais, on le sait tous ce qui est en train de se passer, là. À combien de reprises c'est arrivé que pendant que tout ça se passe, quelqu'un qui brigue le pouvoir dans une province canadienne invite également les gens à aller le rencontrer d'un salon du livre. J'aimerais vraiment... Parce que là, moi... Puis là, tu sais...
Quand je dis fan club, c'est ça que je veux dire aussi, là.
Mais c'est vraiment drôle parce que lorsqu'il parle de la biographie, il en parle à la troisième personne. Tu sais, il parle de la biographie d'Éric Duhaime. Moi, là, j'aimerais ça qu'on donne un nouveau titre à l'auteur, OK? Monsieur Têtu, en fait, c'est l'auteur de l'autobiographie d'Éric Duhaime. C'est assez spécial, tu sais. Puis là, il y a des photos. Puis tu sais, on parle du même gars qui, à un moment donné, reprochait, en fait, d'une certaine façon à François Legault de lire, tu sais. Mais là, c'est pas pareil. Et là, il y aurait même, écoute, mon cher Frank, grosse affaire. Il y aurait des gens qui auraient mentionné sur les divers médias sociaux qu'il en aurait remis des centaines de copies aux membres du Parti conservateur du Québec.
Ouais, ça gonfle les ventes.
Ben non, mais tu sais, je veux dire, des gratuités lorsque t'es auteur ou peu importe, tu sais, ça existe. Puis bon, tu sais, tu veux qu'on parle du livre et ainsi de suite. Ça, j'en ai pas contre ça. Mais tu sais, sérieux, là, Frank, c'est comme... J'essaie de comprendre la rationalité de faire ça, si c'est pas parce que, justement, comme tu le dis très bien, tu sais, c'est un fan club que t'as, c'est pas un parti, là. Mm-hmm. Tu sais, combien de fois est-ce que nous autres, on l'a demandé sur Twitter, au parti, à Éric Duhaime, qu'est-ce qu'il proposait? Tu sais, son programme électoral entier depuis que c'est officialisé, puis depuis la course à la chefferie, depuis que c'est officialisé, tout tourne autour du fait que les gens qui sont à l'endroit où lui n'est pas, mais où il aspire à aller, font pas ça comme il faut, sans aucune... Tu sais, tout ce à quoi on a droit... Puis je sais qu'on en a déjà parlé, là, mais tout ce à quoi on a droit, c'est... En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça de même. Puis là, tu dis, OK, qu'est-ce que t'aurais fait? J'aurais pas fait ça de même. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Peux-tu être un peu plus spécifique?
Tu proposes quoi, du...
J'aurais pas fait ça de même. Tu sais, c'est la même phrase, mais là, tu t'augmentes d'une coche à toutes les fois ton indignation. Puis là, ben, c'est facile ramasser du monde indigné, tu sais, quand ils sont en maudit parce que faut tu mettes un masque pour aller t'acheter de la gomme, tu sais.
C'est facile aussi de dire qu'on aurait fait mieux quand on n'a aucune possibilité d'accéder au pouvoir, tu sais. Je veux dire, c'est comme quand tu regardes une game de hockey, puis il aurait dû shooter avant, une passe de trop. Moi, j'aurais shooté.
Non, mais le pire, là, c'est, imagine-toi si tous les gérants d'estrade qu'on connaît, là, en termes de sport. Mm-hmm. OK, là, tous ceux, là, qui, en tout cas, moi, si j'avais été Bergevin. OK, mais imagine-toi, là, écoute ça, le wet dream, là. OK, mais, ils sont sur le banc. Puis là, un moment donné, le coach, il arrive en arrière d'eux autres, puis il tape sur l'épaule. Ah, vas-y, là. C'est un peu, ça arrivera pas. Les probabilités que le Parti conservateur du Québec prenne le pouvoir sont très, très minces, voire inexistantes, souhaitons-le.
Oui, oui.
Mais, tu sais, puis après ça, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, lorsqu'il y avait des gens qui clamaient que c'était pas correct que Claire Samson change de parti pour s'en aller avec lui, parce que c'était pas sous cette faction-là que les électeurs... Ouais, exactement. Et pendant que Duhem se défend de ça, le parti, le programme du Parti conservateur à l'époque datait de 2019. Il n'avait jamais été revampé. Si ma mémoire ne me trompe pas, c'est en 2021 que tout ça s'est déroulé, puis qu'elle a traversé la chambre, qu'elle s'en allait avec lui, puis blablabla, puis toute la kit. Et dans le parti de 2000, dans le programme du parti daté de 2019, qui est aux archives nationales, il est fait état que ça n'a pas d'allure faire ça et que ça va être quelque chose qui va être éliminé. On commence, nous autres, à spinner ça, on en sort des encarts, tu sais, on met des screen grabs, des captures d'écran pour illustrer cette affaire-là. Mm-hmm. Je le sais que ça n'a pas rapport avec nous autres. Allez pas penser que je suis en train de prétendre que c'est grâce à nous autres. C'est pas ça que je dis. Mais le timing de la chose a quand même fait que c'est à peu près précisément à cette période-là qu'ils ont scrappé ça, ils ont sorti le nouveau. Alors, la nouvelle réponse à tout est devenue... Ben, tu l'as-tu lu, le programme? Ben, moi, je l'ai lu, le programme, puis je l'ai lu au complet. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait mis au défi de dire, tu fais rien que j'ai lu, Godette, à propos du Parti conservateur, l'as-tu lu, le programme? Oui, je l'ai lu au complet. Et le mot COVID revient dedans sur 88 pages, deux fois.
Oh, Colin, c'est pas ce qu'on spin sur les réseaux sociaux, hein?
Ah non, 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 c'est ça. Fait que là, tu sais, puis tranquillement, pas vite, Moi, je salive, là. Parce que tranquillement, pas vite, Frank, on s'approche à chaque semaine de la présentation des nouveaux candidats, candidates. Mm-hmm. Et ça, ben, moi, je veux juste le dire, là, aux gens, parce que je me suis laissé dire que, tu sais, il y aurait des gens dans l'organisation du Parti conservateur qui détestent pas ça nous écouter pour voir quelle niaiserie qu'on était pour dire. Là, je suis super sérieux. On va tous les analyser, tout creuser, aller tout chercher ce qu'on peut pas trouver sur ces candidats et candidates-là.
Comme pour
et
la oui, fondation, on va être dans vos shorts.
Ouais, et ça inclut aussi toutes leurs prestations de toune plate devant des CHSLD et toutes les niaiseries potentielles publiques. Là, on n'est pas en train de dire qu'on va doxer, pas en train de dire qu'on va tuer des bacs.
Mais juste Éric Duhem, à lui tout seul, est une mine d'or de squelette
dans le placard. Écoute,
d'ailleurs, hey, c'est vrai, je pense à ça. J'ai fait, ces temps-ci, je fais du ménage dans mes choses. Je veux réduire mon inventaire. Et je suis dans mes livres, puis... J'ai beaucoup de livres, dont certains que j'ai reçus à la station de radio où je travaillais. Et j'ai trouvé parmi ces livres-là trois perles. Il y en a un qui s'appelle « Le livre jaune ». C'est des affaires des théories de conspiration pré-pandémie. J'en ai un qui s'appelle « Libérez-nous des syndicats », un livre d'Éric Duhem. Que je pense que je vais offrir à notre ami le conspilosophe. Je pense que ça pourrait lui faire plaisir. Wow. Et j'ai trouvé aussi, dans mes choses, le livre de Rambo Gauthier aussi. Fait que, Colin, j'ai de la littérature de tous les niveaux. J'ai des affaires intéressantes aussi, là. Mais dans ma pile de livres à foutre d'un vidange, il y a ces trois livres-là, mais les livres que je lis pas, je vais en faire don à un organisme. Puis ma pile, ça, j'ai une pile de livres que je donne, une pile de livres que je garde, et une pile de vidange, c'est ces trois livres-là. Mais je suis pas capable de les jeter parce que je me dis, il y a sûrement de quoi de drôle à les récupérer là-dedans avec le recul. Fait que je vais probablement parcourir ces livres-là. Le livre d'Éric Duhaime puis celui de Rambo Gauthier, je les ai mis à côté de la toilette. Des fois, je manque d'inspiration. Mais tu sais, des fois, quand ça sort pas. je vais les parcourir un peu, mais le livre Libère-nous des syndicats d'Éric Duhaime, je pense bien que je vais le donner à notre conspilosophe. Pas mal sûr qu'il va triper là-dessus. Je suis sûr qu'il va apprendre plein de choses.
Ben d'ailleurs, je en profite pour lui passer mes très sincères salutations, conspilosophe, parce que, écoute, je reçois plus régulièrement qu'à l'habitude beaucoup de ses états d'âme sur l'état des choses. Alors, il va assurément falloir l'inviter.
Ah, il doit être dû, hein?
Avant longtemps. Ouais, il va falloir l'inviter. Avant longtemps.
Max est un presto, hein? Il faut l'inviter au crachoir pour qu'il relâche un peu de pression avant qu'il explose.
Ouais, c'est important. Moi, je considère que ça fait un peu partie de notre mission aussi d'aider certaines personnes à ventiler, n'est-ce pas? Plutôt que, tu sais, peut-être aller dire des affaires, des énormités ou peu importe.
Et ça nous fait du bien à nous aussi.
Oui, oui, ben oui, c'est sûr. Tu sais, ventiler par procuration, ça peut être très intéressant. J'allais utiliser un autre terme, mais là, c'est sûr.
Mais devoir aussi rationaliser les propos de conspi par quelqu'un qui a une bonne formation en philosophie, c'est super intéressant. Oui. Ça aide à comprendre un peu la psychologie du conspi. Là, j'en parle comme si c'était un animal, là, mais bon.
Oui, absolument. Je continue un peu dans la duémagogie. Écoute, je sais pas comment. Ça, là, je vous le dis tout de suite, OK? Si on avait un jingle pour ça, là, ça s'appellerait Martin va parler à travers son chapeau. OK? Je vous explique pourquoi je dis ça. C'est que, je sais pas, là, mais tu sais, il me semble que, à la base, je comprends très bien l'importance du militantisme quand on parle de politique. Je comprends très bien l'importance de s'allier de gens qui ont les mêmes valeurs, la même vision. Tout ça, je comprends tout ça. Mm-hmm. Par contre, ben, tu sais, parallèlement à ça, ben, je me pose souvent la question, et particulièrement dans le cas du Parti conservateur, parce que j'en ai pas d'exemple à donner des autres partis politiques, à part quelques-uns qui vont vous sembler évidents, sur lesquels on va revenir. Mais, c'est pas parce que t'as besoin de bénévoles pour s'occuper de tes médias sociaux que tu devrais prendre le premier ou la première venue. Oh. Et là, écoute, c'est la quantité d'affaires à coucher dehors qu'on a publié sur Ménage du Dimanche depuis un an et demi, tu sais, c'est sur les pages et les médias sociaux du Parti conservateur, là. C'est pas Éric Duhaime, pis c'est pas, mais tu sais, la quantité que j'ai vue, tu sais, ça a commencé, je pense, vers la fin 2020, début 2021, un des bureaux du Parti de l'Outaouais, tu sais, qui avait partagé la fameuse photo de François Legault, là, qui était habillé avec la petite moustache, puis Hitler, puis tout ça. Et Éric Duhaime avait dû faire une sortie dans laquelle il disait que, bon, il était pas d'accord avec ça, puis tu sais, il n'y a pas de comparatif à faire, puis patati et patata. Et là, ben, au passage, ben, je vais féliciter notre chum Mike Tremblay qui a reçu Guilla Lepage, justement, parce que, en toute impunité, tu sais, les images de Guilla Lepage ont été utilisées pour faire des gags, des mimes, peu importe, tu sais, pro-Parti conservateur du Québec. Et là, ben, tu sais, c'est la prérogative de Guilla Lepage de pas être d'accord avec ça. Puis là, c'est pas nécessairement seulement à propos de Guilla Lepage, mais à propos de l'émission elle-même. Puis tu sais, il existe des us et coutumes en matière d'utilisation de contenu. Moi-même, by the way, j'y ai déjà goûté. J'ai déjà dû changer certaines affaires que j'avais utilisé dans des photomontages parce que justement je pouvais pas utiliser ça, mais j'avais même pas demandé la permission, là. Mais sauf que ce que j'ai fait, ben quand on m'a intimé de retirer ça, ben je les ai retirés, puis j'ai fait amende honorable et tout ça. Mais là ça, moi, ce que je pense qu'il va s'en venir, là, j'en ai pas à vous sortir aujourd'hui, là, tu sais. Je te vois, Frank, salivé, là, tu vas m'en sortir un autre. Non, j'en ai pas. Mais, tu sais, pour moi, la course, là, pour moi, les élections, ça commence vraiment demain. Avec les résultats dans Marie-Victorin. J'ai l'impression que ça va être un peu ça qui va tous nous mettre, dans le bain de tout ça. Et je m'attends à beaucoup de bourdes. Parce que si l'histoire nous a fait une démonstration depuis qu'il y a eu la, la course à la chefferie du Parti conservateur du Québec, c'est que les équipes respectives y vont en échapper. Alors, je fais appel à tout le monde. Dans l'éventualité où vous en verriez, je vais avoir un œil très attentif sur la messagerie de Ménage du Dimanche, ainsi que toute l'équipe de modérateurs, modératrices, les meilleurs de tout l'Internet, parce que nous autres, on commence officiellement à se mettre en mode. Le bureau de électoral est ouvert et on est prêt à recevoir toutes vos plus belles découvertes. Et parallèlement à ça, ben évidemment qu'on va suivre ça de très près. J'ai un autre sujet, Frank, qui est pas le fun. Cette semaine, on a appris le décès d'une personne qu'il faut qu'on déhaie, toutes les informations ne sont pas sorties, ça nous regarde pas nécessairement. Puis c'est pas le fun, c'est pas cool. Ça semblerait-il que c'est un accident de travail. Ouais. Contrairement, tout ce que j'ai à dire là-dessus, parce que je pense que c'est important d'en parler là, pour la suite des choses. Mais tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que évidemment, c'est bien plate, c'est bien dommage. Ce serait, semble-t-il, un accident de travail bête. Et l'autre affaire, ben, c'est que ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de publications relatives à ça. On fera pas ce que tout le monde est en train de faire, c'est-à-dire de dire pendant que c'est arrivé, nous autres, on amenait des sacs d'épicerie à du monde qui en ont besoin, puis à créer du contenu avec ça. Il n'y a pas de contenu à créer avec ça. C'est triste, c'est plate. Puis j'ai rien à
sympathie à ceux qui sont dans le deuil, tout simplement. Là,
Exactement.
C'est pas que ça me touche plus que, tu sais, je le connais pas, là, tu sais, mais on est capable de faire preuve d'empathie puis comprendre qu'il y a du monde qui sont en train de vivre des moments très, très pénibles. Ah ouais. Puis, effectivement, il y a rien de drôle là-dedans. Il y a rien à dénoncer là-dedans. Outre que même si on parle d'adversaire, c'est avec respect que j'offre mes sympathies aux survivants, à ceux qui ont, qui connaissaient cette personne-là, puis qui vont vivre le deuil dans les prochains jours. C'est pas drôle pour personne, on le souhaite à personne, puis c'est pas parce que c'est un adversaire qu'on va perdre nos valeurs humaines. Voilà.
L'autre affaire, ben écoute, on est en train de se construire quelque chose c'est une caricature très boiteuse, mais on est en train de... Notre-Dame du Bon Conseil est-il en train de devenir notre Jonestown québécois? C'est-à-dire que là, tout le monde est en train de graviter vers cet épicentre conspitoyen qui a toute apparence de QG de la sauce québécoise. Écoute, il y a un hôtel, ça s'appelle l'hôtel 4 saisons, j'ai pas peur de le dire, c'est partout sur les médias sociaux, tout le monde parle de cet endroit-là, tout le monde a dans l'idée d'aller se rejoindre là, tout le kit. De ce que j'en ai vu, et j'ai pas consacré beaucoup d'heures là-dessus, mais de ce que j'en ai vu, ben écoute, c'est un, ben tu sais, j'imagine que y a moyen de louer des chambres.
Ouais, puis il paraît même qu'on peut les louer pour des siestes l'après-midi.
Ah bon, le motel no-tel.
Ouais, c'est ça.
Bah ouais, c'est ça, c'est un grand classique anglophone. Mais c'est ça, puis écoute, en tout cas, comment ça va sortir? Je mangerai pas là. Je vais le dire de même.
Je mangerai même pas mon lunch là. J'ouvrirai pas un Ziploc avec une sandwich là.
Non, j'ai comme pas. Ça m'inspire pas grand chose d'autre que de dire qu'on suit ça quand même de près.
On nous dit pas, dans les commentaires, c'est une information non vérifiée, là, mais ça serait 50$ la nuit.
Ah, bon. Puis, l'autre affaire, c'est que je me questionne un peu quand même sur au niveau stratégique, tu sais, j'ai rien contre les gens de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, j'ai pas de préjugés défavorables envers cet endroit, c'est pas ça, mais tu sais, comment je te dirais ça? Ça me semble pas être nécessairement très, très stratégique comme endroit. En tout cas,
tu veux dire que ça serait moins, ils vont moins attirer l'attention que, je sais pas, Ottawa, par exemple? Es-tu en train de dire qu'il n'y a pas de grandes décisions du gouvernement, du Deep State qui se prennent à Notre-Dame du Bon Conseil? Bon, je pas de la ville, hein, puis des hôtels miteux, des hôtels miteux, il y en a partout. Et puis, n'importe qui peut avoir une invasion de fourmis dans son gazon. Fait que des conspis, ça peut fourmilier partout. Fait que
au niveau situationnel, là, de façon très...
géographique.
Comment je dirais ça? Oui, géographiquement, mais ce que je veux dire, c'est... C'est un peu comme au centre, entre, je dirais, Trois-Rivières, Victo, Sherbrooke, Sorel, mettons, là. Oh. Tu sais, on est sur la rive sud de Montréal, là. C'est pas, quand je dis, c'est un peu vulgairement, là, que quand je dis au centre, parce que c'est pas mal plus proche de Sorel que de Sherbrooke, là. Mais, tu sais, fait que, tu sais, comme destination / point central, où est-ce que vers lequel tout le monde devrait graviter, où est-ce qu'il y a des centres importants, décisionnels, québécois. La première municipalité à laquelle je pense, c'est pas Notre-Dame du Bon Conseil. OK? Je voulais dire.
Moi, c'est Macamic.
Bon, ben, puis écoute, c'est ceinturé, ça, cette municipalité-là est ceinturée de, écoute, c'est savoureux. Sainte-Brigitte-des-Sceaux, Sainte-Perpétue-Station, Saint-Clotilde de Horton et Saint-Cyril de Wendover. Alors, on rapporterait qu'il y aurait des pourparlers pour que le G8 se déroule à Notre-Dame du Bon Conseil bientôt.
Moi, je vois Donald Trump I'm gonna go to Saint Cyril the Wendover.
Oh yeah. Ben là, tu vois, regarde, déjà, on me rapporte
there's a big rally at Saint Cyril.
Ah, OK. Là, tu vois, il y a du monde qui me dit c'est pas du bon conseil. OK, je pensais qu'il voulait dire j'avais mal dit le nom de la municipalité. Mais non, c'est bien et bien Notre-Dame du Bon Conseil.
Ça serait collé selon une de nos stakers. Ça serait collé sur Saint-Éloigné des Pas-Proches.
Bon, ouais, ben effectivement. Et là, tu vois, j'ai envie qu'on discute un petit peu plus de cette bourgade. Alors, je m'en suis remis, bien sûr, à Wikipédia. Notre-Dame du Bon Conseil est une municipalité de village en Drummond, au centre du Québec, au Canada. Elle est enclavée dans la municipalité de paroisse de Notre-Dame du Bon Conseil, dont elle s'est détachée en 1957.
À des vrais Gaulois.
Établi sur un site peu accidenté et traversé par la pittoresque rivière Nicolet, Notre-Dame du Bon Conseil bénéficie d'un emplacement privilégié, identifié comme l'un des pôles de la municipalité régionale du comté de Drummond. Bon Conseil est avantageusement situé au carrefour des principaux centres de la région 04, Drummondville, Trois-Rivières et Victoriaville. Je m'excuse, j'aurais dû dire ça tout à l'heure. Et jouit d'un réseau routier hors pair. À l'intersection de la route 122 et 259 et à proximité de l'autoroute Jean-Lessard transcanadienne, Notre-Dame du Bon Conseil permet à ses résidents de rejoindre près de 80% de la population du Québec en un peu plus de 60 minutes. OK! Ah, c'est ça!
On vient de trouver la twist. C'est parce qu'ils ont accès à tout le peuple.
On peut y accéder en empruntant la sortie 196 de l'autoroute 20. Elle est également desservie par la route 122 qui relie Drummondville à Victoriaville. Pour ce qui est de la population, les gentilés sont nommés bons conseillois et bons conseilloises. Un bel exercice de diction. Et écoute, on parle d'une population datant de 2016, ça a dû changer, de 1557 habitants.
Patriote.
Pour une densité de 354 habitants au kilomètre carré.
Ça en fait du patriote, ça. Puis ils ont accès à tous les patriotes au sens. Écoute, c'est un camp retranché gaulois. C'est un village gaulois entouré de camps retranchés québécois.
Hey, écoute ça, là. Ça, c'est. On va clore là-dessus, mon frère. La toponymie de Notre-Dame de Bon Conseil. Le nom de la municipalité provient d'une apparition mariale dans la ville de Genazzano, en 1467, dans leur album de 2008, La Ligne Orange, mes aïeux lui dédient une chanson qui porte le nom du village.
Oui, puis d'ailleurs, c'est ça, Marie est apparue là. D'ailleurs, j'ai le chandail de tournée quelque part, de Virgin Tour, là, parce qu'elle a fait apparition un peu partout. Là. C'est une tournée mondiale, puis tu sais, même si elle fait des tournées mondiales, elle s'arrête quand même là. C'est pas pour rien, c'est pour avoir accès à 80% de la population du Québec. Ben, bravo, Marie. Il y a quelqu'un qui a halluciné Marie, puis ça a donné le nom au village.
Ah non, c'est ça, tu sais, c'est vraiment cool, tu sais. Le nom du village provient probablement d'un hallucinogène du 14e siècle, ou tu sais, que trip d'acide de l'époque. Ou,
J'adore ça. On veut pas insulter les gens de ce place-là. Là.
Non.
Puis d'ailleurs,
attends un petit peu, Frank. Le gentilé, c'est bon conseilloise, mais à partir de maintenant, je pense que le nouveau gentilé de Notre-Dame du Bon Conseil devrait être victime.
Ah, moi, je m'en allais pour bon conspillois, mais c'est ça, c'est le gentilé juste du motel, hein, les bons conspillois et les bons conspilloises.
Voilà.
Excellent.
Ça fait le tour de mes actus conspi, Frank, mais rapidement, j'aimerais ça dire merci à tous ceux. C'est pas terminé, ça va se terminer dans les prochains jours, mais dire merci, un gros merci à tous ceux et celles qui ont été des nôtres lors des rétrospectives 2021. Évidemment, comme vous le savez, on commence l'an 3. On est pas super bons, nous autres, dans les anniversaires. Moi et ouais. Frank, on est deux maillets là-dessus. Comment on dit ça déjà?
On s'en calisse.
Ah, c'est ça, exactement. Mais il fallait quand même, écoute...
Je suis même pas sûr de quel âge que j'ai. Signifier
un petit peu notre fierté, justement, de débuter l'an 3. Et j'en profite au passage pour remercier CC Can, Domsey, CC Suburban, tous ceux qui nous ont aidés. Je parle en termes de montage vidéo plus précisément, là, et particulièrement pour élection 2021.
Les meilleurs collabos.
Ouais, exactement. Puis je tiens à les remercier du fond du cœur de tout ce contenu-là qui ont fait pour nous, ou en tout cas sur lesquels on a collaboré. Et pour conclure là-dessus, c'est en toute humilité que je le dis, parce que j'ai fait les montages là, des rétrospectives, je les ai pognés, je les ai mis bout à bout. C'est assez hallucinant la quantité de contenu qu'on a fait depuis 2 ans. Puis là, j'ai juste fait 2021. Tant de chemin accompli depuis cette époque-là, puis c'est sûr qu'écoute, à un moment donné, la désinformation, ça s'en ira jamais. C'est le nouveau mal du siècle. Sauf que, par contre, tu sais, éventuellement, la pandémie, ça va être quelque chose qui va être derrière nous. Tu sais, la COVID, ça va être quelque chose qui va être derrière nous, contrairement à ce que certains peuvent dire là. Mais puis, ben, tu sais, c'est peu importe ce que sera la suite de Ménage du dimanche, ben, tu sais, on pourra au moins regarder derrière nous autres. Puis écoute, moi, je considère que c'est grâce à beaucoup de monde que cette œuvre colossale-là a pu être produite. C'est pas juste moi, c'est pas juste toi, c'est tout le monde.
Qu'elle va fleurir encore, parce qu'on n'est pas à veille de tomber à court de désinformation.
Voilà. Tant que ça fane pas, mais sinon, ben regarde, j'en profite là pour, puis évidemment, dire merci aux modérateurs et modératrices qui ont été présents pour toutes ces soirées-là. Il va en avoir encore quelques autres, et je l'annonce officiellement, Frank, bien que ce contenu ne soit disponible qu'à nos abonnés sur Patreon, ben je vois pas comment on pourrait mieux conclure le résumé de l'année 2021 avec autre chose qu'une rediffusion du Bisou Bye. Pour ceux et celles qui auraient pu l'avoir manqué, et juste parce que on aime ça le regarder, et je pense que ça serait de bonne aloi de regarder ça une dernière fois. Par la suite, ça va demeurer disponible juste pour nous.
Ouais, puis ça n'a pas eu le temps de vieillir, hein? ça fit encore pas mal.
Ouais, ben c'est ça, puis c'est ça qui est le pire. J'étire un peu là, mais c'est ça qui est le pire, c'est que tu sais, quand tu regardes des trucs, mettons, dans leur contenu original, tu sais, il y a des montages de, entre autres, là, je pense à Pacharlan qui avait les finances des Farfadets, ou tu sais, quand il était en maudit parce qu'il n'y avait pas de café, ou ces affaires. Puis tu sais, tu prends ça, tu le déplaces, tu remets ça dans le contexte actuel des choses, puis tu sais, ça continue de faire la démonstration de ce qu'on dit depuis le début souvent, tu sais, puis c'est regarder le setup. Écoute, man, les finances des Farfagnets, écoute, je comprends, fuck on! Fait que, en tout cas, merci à tous ce beau monde-là, puis écoute, on entreprend l'an 3 maintenant, puis on se retrousse les manches, il va y avoir bien du stock. Année électorale, on en a eu une fédérale, mais là, on va en avoir une provinciale, ça promet.
La fédérale était déjà quand même très drôle. D'ailleurs, CC Suburban nous l'a illustré de la meilleure façon imaginable. Je pense que ça va ressembler à... Je pense pas que ça va être plus tranquille, la campagne provinciale. Ça risque même d'être plus intense, oui, Martin?
On a fait, dans le dernier épisode du Deep Steak, qui est exclusif au patron, on a fait, on en fait souvent des watch-along, puis écoute, on a regardé, je veux pas qu'on dise vulgâche, mais on a regardé le spot publicitaire d'un certain candidat longueuillois, j'ai envie de le dire de même, et j'ai régurgité. T'sais, fait que ça a mis ça a acheté les bases de ce que risque d'être la course aux élections 2022 provinciale. Ouais. Fait que moi, je suis prêt.
Gardez votre mouchoir pas loin d'un coup que vous êtes pris pour régurgiter, comme le fait Martin assez régulièrement quand on regarde des niaiseries.
Ça faisait un bout, là. Ça faisait on était dû, là.
Après ce qui suit, on parle avec un avocat en droit des peuples autochtones. On va parler des excuses du pape à la communauté des Premières Nations qui sont allées, la délégation plutôt, qui sont allées le visiter au Vatican. Et pour se rendre là, voici une toune de Motorhead, God Was Never On Your Side. C'est le Crachoir épisode 204, Papal, Don't Preach.
If the stars fall down on me and the sun refuse to shine, then may the shackles be undone, may all the old words cease to rhyme. If the sky turn into stone, it will matter not at all, for there is no heaven in the sky. Hell does not wait for our downfall. Let the voice of reason shine. Let the pious vanish for all time. God traces him all unseen. You can ask him what it all means. He was never on your side. God was never on your side. Let right and wrong alone decide. God was never on your side. See 10,000 ministries. See the holy, righteous dogs. They claim to heal, but all they do is steal. Abuse your faith, cheat and rob. If God is wise, why is he still? When these false prophets call him friend, why is he silent? Is he blind? Are we abandoned in the end? Let the sword of reason shine. Let us be free of prayer and shrine. God's face is hidden, turned away. He never has a word to say. He was never on your side. God was never on your side. Let right or wrong alone decide.
side, never on your side.
Le Crachoir épisode 204. On reçoit aujourd'hui un de mes amis, je pense que je peux le dire comme ça, mais un collaborateur du Crachoir aussi, Alexis Wawanolowat, qui est avocat en droit des peuples autochtones et co-animateur de l'émission Coué Bonjour au canal M. Vous pouvez googler ça, vous allez le trouver facilement. Salut Alexis.
Salut Frank.
Je voulais avoir tes réactions avec ce qui s'est passé au Vatican, la délégation. Le pape a présenté ses excuses à une délégation des Premières Nations qui était en visite au Vatican pour l'occasion, évidemment. Pour les atrocités commises par les pensionnats catholiques au cours des dernières décennies, peux-tu nous rappeler, juste en partant, un peu ce qu'étaient les pensionnats et qu'est-ce qu'on leur reproche malgré... Bon, c'est sûr, on a tous vu passer les cadavres d'enfants qui ont été déterrés. On a vu ça dans les nouvelles, mais quelle était la fonction et le fonctionnement de ces pensionnats-là?
Pour établir la souveraineté canadienne et britannique à l'époque sur le territoire, on a signé une série de traités. Non content de nous avoir juste mis sur des réserves... McDonald, le soi-disant grand-père, le père de la Confédération, trouvait que même si on nous apprenait à lire dans les écoles de réserve et tout ça, on ne devenait pas nécessairement assimilé à la société dominante ou société dominante canadienne puis plus britannique. Donc, il s'est dit qu'il fallait non seulement nous tasser, mais aussi tuer l'Indien dans l'enfant. Donc,
tuer l'Indien dans l'enfant.
Ouais.
OK.
C'est ça que c'était ses paroles. Donc, bref. Grosso modo, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a mis, on est allé prendre les enfants, les a tirés de leur famille. Puis, on pourrait dire que c'était plus des camps de concentration que des pensionnats. Puis, le seul crime de ces enfants-là, c'est d'être nés autochtones.
On les enlevait carrément? On allait dans les familles, on prenait l'enfant, puis on dit « bon, ben c'est plus votre enfant » ou « ben on s'en occupe ou... ».
Ben, comme on nous voyait d'autre manière comme des mineurs, grosso modo, au sens de la loi sur les Indiens, papa fédéral pouvait bien venir décider comme que qu'est-ce qui était mieux pour ses pépilles.
Ouais. Vous n'aviez pas les mêmes droits que les autres citoyens.
Là. Ben non, comme au Québec, on a juste eu le droit de vote dans les années 60.
C'est épouvantable.
On n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit, pour sortir de la réserve, il fallait l'autorisation écrite de l'agent indien et des affaires de même. Mais en tout cas, bref, tout ça pour revenir à la question des pensionnats. Donc, pour gérer tout ça, le gouvernement a fait affaire avec des églises, beaucoup d'églises catholiques, des presbytériennes. Il y avait déjà beaucoup de missionnaires dans les communautés, puis bref, on a continué comme ça en voulant profiter des revenus de l'État pour amener la bonne parole puis la civilisation à ces enfants-là. C'était le but officiel de l'époque, mais dès les années 1910, on savait que c'était sous-financé, qu'il y avait des conditions de vie juste d'un point de vue sanitaire qui étaient déplorables. Puis là, je parle pas de la violence, de la violence sexuelle, de la violence psychologique qui avait lieu. Quelqu'un m'a déjà raconté qu'il est arrivé au pensionnat de Saint-Marc, c'est un Anishinaabe d'Abitibi-Wimi à Picogan, à côté d'Amos. Mm-hmm. Puis, il vivait dans le bois, plutôt dans le bout de Joutel, lui, quand il était petit. Donc, c'est dans les dernières générations qui ont vécu dans le bois, puis... il savait pas parler français. Fait que il voulait aller faire pipi, puis il est allé demander pour aller faire pipi en Anishinaabe, puis il s'est fait sacrer une volée. Parce qu'on ne parlait pas sa langue, même quand on savait pas encore parler français.
Voyons donc.
Là, bon, ben, la commission Vérité et Réconciliation nous a fait état de toutes les violences physiques et sexuelles. Je reviendrai pas trop là-dessus, mais comme dans l'Ouest, on a trouvé beaucoup de tombes. On a des histoires de curés qui agressaient les jeunes, puis qu'il y avait des bébés qui naissaient de ça, qu'on envoyait directement à l'incinérateur.
Hein?
Fait que, bref, tout ça pour en arriver aujourd'hui où... Ça fait longtemps qu'on le dit que c'est un génocide, que c'était des camps de concentration, puis il y a eu la commission Vérité et Réconciliation qui a déposé son rapport en 2015. Il y avait des actions qui étaient demandées particulièrement comme pour les gouvernements et ainsi de suite, puis d'autres des gouvernements des Premières Nations ou d'autres institutions, mais qui étaient aussi dirigées directement vers l'Église catholique. leur demandant, vu qu'il avait eu joué un grand rôle là-dedans, de s'excuser aussi. Donc, on l'a pas fait en 2015 quand c'est sorti. Le pape disait que c'était pas vraiment possible aujourd'hui, mais là, suite à la découverte des tombes, puis tout à cet aspect-là de l'histoire canadienne, le génocide qu'on n'a jamais voulu reconnaître revient dans l'actualité. Ben là, le pape a reçu des délégations des Premières Nations pour se faire raconter ça. Et maintenant, il dit qu'il va venir, après s'être excusé pour qu'est-ce qui avait été fait par des personnes, des membres de l'Église catholique. Il est supposé venir donner des excuses en personne, sûrement au cours de l'été prochain.
Il y a une chose que je comprends pas, c'est que, bon, comme tu viens de l'expliquer, l'Église avait déjà refusé de s'excuser, que c'était pas le temps. Puis là, quand on trouve un paquet de cadavres d'enfants, puis que là, c'est trop gros, ah là, on décide de s'excuser, là, on se sent coupable tout d'un coup. Ça ressemble à une opération de relations publiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'intention, selon moi, ce que moi je ressens, là. Puis je suis même pas impliqué. J'imagine si j'étais impliqué, je serais sûrement enragé de ça. Mais c'est que... J'ai l'impression que l'Église n'avait pas vraiment l'intention de s'excuser et que là, ils sont forcés de le faire parce que c'est devenu trop gros, puis on a trouvé des cadavres. Finalement, on a trouvé des squelettes dans le garde-robe de l'Église, puis là, elle se sent le besoin tout d'un coup de justifier et de s'excuser alors qu'en 2015, c'était moins important.
Ouais, ben en 2015, mais on pourrait dire la même chose de beaucoup de gouvernements par rapport à bien des politiques coloniales qui se poursuivent encore aujourd'hui. On le voit avec le gouvernement de la CAQ. Bon, il s'est excusé, il a fallu, la commission vient pour qu'il le fasse, mais encore là, on veut pas appliquer qu'est-ce qui est écrit dans la commission vient. Comme dernièrement, la CAQ a brisé sa promesse de faire en sorte qu'on allait mettre la sécurisation culturelle dans la loi sur la santé. Donc, c'est comme beaucoup d'organisations qui sont lourdes, qui sont très bureaucratiques, je pense que c'est long puis ça peut être dur. Moi, qu'est-ce que j'espère là, maintenant de l'Église catholique, qu'au-delà de la... que, comme tu le dis, là, une opération comme, qu'on arrive avec des vraies actions, c'est là qu'on va voir s'ils sont sincères là-dedans. Des vraies actions, ben on peut juste prendre ceux-là qui sont demandés dans les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation, faire des formations pour que la spiritualité autochtone soit connue, puis qu'on arrête la violence spirituelle de la part des missionnaires qui sont encore en place dans beaucoup de communautés. Okay. Petite parenthèse, comme dans ma communauté à Odanak, on appelle ça missionnaire, c'est pas le curé. Le curé, c'est un missionnaire parce que c'est une mission, donc il y a le titre de missionnaire.
Ils sont là pour convertir.
Ouais, ben, t'sais, dans bien des communautés, c'est déjà bien converti, mais bon, ils poursuivent la mission d'évangélisation. Puis, un autre des appels à l'action, c'est qu'ils mettent de l'argent dans cagnotte, qu'ils fassent en sorte qu'on puisse peut-être faire des programmes de revitalisation des langues, puis de certaines réparations dans ce sens-là. Ils ont tellement aussi de terrain de terre que... qui ont pris à des Autochtones ou qui ont soi-disant gardé en fiducie pour des Autochtones qui seraient intéressants de voir s'ils ne seraient pas capables d'en laisser aller pour les Premières Nations. Fait que au-delà, justement, de ces excuses-là qui sont très symboliques, qu'on a vu d'autres gouvernements faire, ça se mesure à l'action qu'il va y avoir dans le futur. Puis là, on n'est pas encore rendu là. Mais, tu sais, d'un autre côté... Il y a beaucoup de personnes qui, dans les Premières Nations, qui sont très catholiques encore.
Ouais, fait c'est que, cette partie-là que je comprends pas beaucoup. Puis
moi, comme le black metal, ça fait partie de mon évolution philosophique. L'antichristianisme, le fait que je sois pas baptisé, c'est des éléments quand même qui ont été dans mon évolution, c'est ça, spirituelle puis philosophique. Donc personnellement, moi, en tant qu'Autochtone, ça me touche pas tant que ça, les excuses du pape. Mais pour d'autres, puis tu sais, tu te demandes pourquoi, tu me disais, tu te demandes pour commencer, il y en a beaucoup d'Autochtones qui sont si catholiques. Tu me disais ça.
Ben c'est quand je les vois aussi arriver au Vatican, puis ils sont comme quand même heureux de d'être là, de rencontrer le pape. Ils semblent satisfaits des excuses. Mm-hmm. Ils ont même offert des cadeaux à celui qui représente l'institution qui les a génocidés. Ça, cette partie-là, je ne la comprends pas. Est-ce que ça serait parce que la mission de l'Église aurait été partiellement réussie, c'est-à-dire de les convertir?
Ben oui, dans une certaine mesure. Les Premières Nations, je pense qu'on est des gens qui ont une très grande spiritualité. Puis je travaillais à Lac-Simon à une certaine époque, en 2009, 2010, 2011. Puis je me posais les mêmes questions. Je voyais la ferveur dans le catholicisme, mais aussi dans d'autres pratiques chrétiennes, pentecôtistes ou adventistes, ou en tout cas, je ne connais pas, là, mais ceux-là qui sont plus
protestants. Les protestants plus dans l'Ouest, les anglophones.
Ben, que ça fonctionne quand même dans beaucoup de communautés autochtones. Puis, je demandais ça à des aînés. Puis, les autres, qu'est-ce qu'ils me disaient, c'est que peu importe la façon, la spiritualité qu'on utilise, même si on continue à faire des activités spirituelles traditionnelles, on va aller vers ces autres activités-là. C'est des façons de se rapprocher du Créateur. C'est ça que les aînés m'avaient dit là-bas.
OK, par ouverture d'esprit.
Ouais, ouverture d'esprit, bien, c'est sûr aussi qu'il y a un poids de la conversion qui a déjà eu lieu, puis de la culture de ces traditions-là qui se transmettent, qui sont devenues des traditions de beaucoup de familles autochtones. Donc, pour eux qui, je reviens au fait que pour beaucoup que c'est comme un leader spirituel quand même important, le pape, ben de recevoir des excuses qui sont, pour ma part, juste quelque chose de très symbolique, pas si significatif, mais pour ces personnes-là, c'est très important aussi. Donc, l'émotion que ces personnes-là pouvaient vivre en allant là-bas puis tout ça, ben je peux la comprendre, même si c'est pas quelque chose de,
que tu vis toi-même.
Que je vis moi-même, moi.
Et puis, quand à la venue du pape au Canada, est-ce qu'on sait un peu ça va être dans quel contexte? Est-ce que c'est j'imagine que bon, c'est pour venir présenter ses excuses en personne ici, mais est-ce qu'il serait reçu par les communautés? Puis je me demandais aussi, est-ce que les communautés sont pas mal unanimes? Dans les nations, est-ce qu'elles sont pas mal unanimes par rapport à cette démarche-là, ou s'il y en a qui sont plus réfractaires à ça ou qui veulent rien savoir?
Non, mais il y en a qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, justement, qu'est-ce qui a été fait, qui en veulent beaucoup à l'Église, qui ont une point de vue très, très, très anti-catholique. Je ne sais pas si tu connais Jimmy Papati, on le voit, il s'exprime beaucoup sur Facebook là-dessus. Lui, il trouve que l'Église catholique devrait même plus avoir sa place dans sa communauté, tu sais. Mais ça aussi, c'est des points de vue qui se justifient et qui se comprennent très, très, très bien avec tout qu'est-ce que l'Église, les missionnaires, même quand c'était pas dans des pensionnats, ont pu faire à des personnes de nos communautés. Je visitais le presbytère sur la presqu'île Akitsakik, tu sais, qu'il faut aller en bateau, là. Mm-hmm. Puis, c'est ça, on montrait justement les petits lits d'enfants parce que le curé aimait bien accueillir des enfants à la maison dans son presbytère. Petits lits, là, ce qui sont encore là, comme qui étaient faits en métal. Donc, c'est ça, c'est les deux positions. Est-ce que c'est unanime? Je ne penserais pas. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde quand même qui trouve ça soulageant ne serait-ce que pour quelque chose dont on a vécu soi-même, où on vit les conséquences intergénérationnelles, de voir des personnes responsables ou des organisations responsables de tout ça, le reconnaître, peut participer à une forme de guérison.
Puis par rapport au gouvernement canadien, est-ce qu'ils ont admis leur responsabilité? Puis est-ce qu'ils ont fait des réparations aux Premières Nations?
Oui, après la vérité et commission vérité et réconciliation, puis avant ça, il y avait eu des excuses de la part, c'était à l'époque du gouvernement Harper. On avait fait un plan d'indemnité individuelle, et dans les négociations et tout ça qu'il y avait eu, il y a aussi tout l'aspect collectif qui était supposé, entre autres, d'être, si on veut, les accords de Kelowna, parce qu'on le sait qu'il y a eu des traumatismes individuels et tout ça, mais il y a tous les aspects de la destruction collective que ça a pu faire. Donc, on avait en mise en place, ça faisait partie justement de l'idée du règlement, ou en tout cas de l'idée qu'il fallait voir quelque chose de plus global, les accords de Kelowna, où on prévoyait justement des montants importants pour les communautés pour juste se rattraper en termes d'éducation puis de santé par rapport à la population en général du Canada. Mais Harper est arrivé au pouvoir et a tout scrappé l'aspect collectif. Il y a juste les indemnités individuelles qui ont été faites.
Donc, il y a des gens qui ont reçu des réparations, des gens qui ont vécu les pensionnats. Il en reste, hein, des survivants de ces pensionnats-là?
Ouais. Ben, tu sais, quand on sait que les derniers pensionnats se sont terminés dans les années 90.
Ah oui, OK, aussi tard que ça, je me rappelle.
Aussi tard que ça, puis fin des années 70, je pense, Saint-Marc de Méfigurie, il faudrait vérifier, là, j'ai pas le chiffre exact en tête, là, mais...
Puis est-ce que ces gens-là aujourd'hui ont du soutien du gouvernement, hormis des réparations? J'imagine que ça doit demander un soutien.
On a accès, beaucoup de monde ont accès à certaines thérapies et tout ça, mais tu sais, il y a tout, comme je le disais, les conséquences intergénérationnelles de tout ça, on le voit entre autres avec la protection de la jeunesse, la robe des années 60, le ouais. taux assez alarmant d'enfants qui sont pris par les services sociaux puis sortis des communautés. Il y a plus d'enfants qui ont été sortis des communautés puis qui ont perdu leur culture à cause des façons de faire de la protection de la jeunesse qu'il y en a eu par les pensionnats. Puis, tu sais, il y a ben des enfants qui ont vécu des affaires assez terribles là-dedans aussi. Il y a eu un règlement sur la robe des années 60. Puis encore dernièrement, il y a un règlement qui a été négocié avec le fait qu'on disait que le gouvernement du Canada ne mettait pas les montants adéquats pour rendre des services en prévention, en protection de l'enfance. Donc, le tribunal des droits de la personne est venu dire que c'était discriminatoire. Puis là, finalement, bon, ils ont perdu en cours fédéral. Ils parlaient peut-être de faire appel, mais finalement, ils ont décidé pas de faire appel puis de s'asseoir pour s'entendre. Puis bientôt, il va encore avoir un autre règlement qui va, ben, d'autres montants qui vont être versés à ces personnes-là. Mais au-delà de ça, bon, ben, est-ce que l'éducation, on va faire en sorte que les sous-financements chroniques arrêtent? Tu sais, c'est tous ces sous-financements-là, quand tu regardes ça d'un point de vue froid, c'est quand même de la discrimination, puis c'est pas avoir droit aux mêmes chances, finalement. Surtout que quand on a vécu tant d'atrocités, on devrait, il y aurait peut-être même plus de ressources à avoir pour qu'on puisse en arriver à une égalité réelle plutôt que formelle.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les jeunes des Premières Nations ont des chances presque équivalentes, ou ça doit s'être amélioré, je veux dire, pour l'éducation par rapport à l'emploi. Il y a des mesures qui ont été prises. Je veux dire,
ça s'est amélioré, plus... mais c'est de où on part. Il faut regarder ça.
Ben c'est ça, je me mets à la place d'un jeune dans une réserve comme Lac Simon, mettons, tu sais, puis qui a des perspectives des rêves de devenir avocat, par exemple, comme toi?
Oh, oui, ben il y en a. C'est souvent encore des plus anecdotiques que plus systémiques, mais juste un exemple. À Lac Simon, même si on construit beaucoup de maisons, puis tout ça, il manque encore 300 maisons. Donc, la promiscuité, puis le fait de vivre avec ses oncles, puis dans la maison des grands-parents, puis tout ça, c'est encore des réalités qui sont là. Donc, je comprends, puis Lac Simon fait vraiment beaucoup de travail. Je parlais avec des gens de Lac Simon dernièrement, puis ils me disaient que c'est moins pire qu'avant. Mais est-ce que c'est idéal? Est-ce que c'est encore adéquat? Je serais pas prêt à dire ça.
Est-ce qu'on a atteint l'égalité? Probablement pas, là, encore, là.
L'égalité formelle, on est supposé de tous l'avoir dans les droits selon la loi, mais en termes d'égalité réelle, si le fédéral est obligé de faire la loi, qu'est-ce qu'on appelle C-92, est obligé quand même de prendre des mesures comme ça, puis qu'on n'est pas là encore. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour se sortir de qu'est-ce que la commission, ben plutôt l'enquête nationale sur les femmes assassinées et disparues, décrit comme un génocide qui est encore actuel.
Oui, parce qu'il y a encore des situations assez épouvantables, notamment dans des communautés de l'Ouest et du Nord qui ressemblent au tiers-monde. Puis il y a des histoires épouvantables de stérilisation de femmes autochtones. C'est encore d'actualité, ces choses-là.
Jusqu'en 2018, on a entendu ces histoires-là, ouais, de femmes autochtones qui se faisaient stériliser sans leur consentement.
C'est tellement révoltant. En 2018, je peux pas croire, je veux dire, il y a 30 ans, ça serait arrivé à des blanches, puis ça aurait été un scandale épouvantable, puis tout le monde serait sauté là-dessus. Puis ça a été toléré jusqu'en 2018 parce que c'était des femmes autochtones ou parce que c'était pas su?
Ben, sûrement que c'était pas su. C'était des femmes qui étaient dans des moments de vulnérabilité, en train d'accoucher, qu'on leur dit « Ah ouais, ça va aller vite, là, c'est déjà tout ouvert, là, on va pouvoir faire ça, chop, chop, chop. » C'est arrivé à des femmes africaines aussi.
Ah oui?
Au Québec. Il y a un reportage d'enquête là-dessus qui est sorti cet hiver, où on faisait tout ça pour des femmes noires puis des femmes autochtones.
C'est épouvantable. Martin, t'avais-tu...
T'sais, moi, je vous écoute José, les gars, puis je trouve ça rough, évidemment, là, comme n'importe qui que je me semble de normal entend ça, puis c'est révoltant, c'est enrageant. Après ça, ben, tu sais, moi, la question que je me pose, c'est tu sais, nous autres, qui ne faisons pas partie prenante de ces communautés-là, qui n'avons pas de présence, tu sais, Alexis, tu sais, je veux dire, je connais toi, je connais Daryl McBride, je connais quelques personnes. Tu sais, y a-tu de quoi qu'on peut dire, qu'on peut faire, tu sais, c'est tu sais, sans s'approprier votre culture ou, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, que ça soit pas juste comme on met un beau chou sur le top du cadeau, puis, tu sais, je veux dire, ça a aucun sens, là, c'est hallucinant. Bye.
Déjà que vous en parlez dans votre podcast, c'est déjà quand même un élément qui sert parce que, justement, si on en parle tant aujourd'hui, c'est qu'on a mis de la lumière là-dessus à cause de drames, là. Tu sais, ça fait plusieurs drames successifs avec Joyce Echaquan, avec les itinérants qui sont décédés à Montréal, avec les enfants, les tombes d'enfants retrouvées. Bon, ben, l'éducation, c'est... Puis s'informer là-dessus, c'est comme la première étape à pouvoir agir. Après ça, tu sais, moi, je cherche pas à ce qu'on ait de la culpabilité parce que j'ai pas besoin de la culpabilité de personne. J'ai besoin aujourd'hui... Tu sais, quand on s'en occupe, ben, on va essayer de s'excuser puis de se dire c'est terminé puis tout ça, mais... Il y a encore des choses qui arrivent aujourd'hui, puis est-ce qu'on est capable de reconnaître que beaucoup de personnes vivent sur des territoires, ont des vies intéressantes grâce, entre autres, si on pense à tous ceux-là qui travaillent dans les ressources naturelles, dans les régions, ben c'est à cause qu'on a réussi à tasser les Anishinaabés de là à une certaine époque, puis d'affirmer une souveraineté sur le territoire, donc... Aujourd'hui, des organisations, des personnes, c'est peut-être ce travail-là d'introspection qui est pas souvent facile à faire. Tu sais, comme pour que le Canada accepte que les termes génocide et tout ça, on n'est pas encore rendu là, d'avoir une vraie introspection sur qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'arrête puis de passer à autre chose. Ben, ça demande du courage. De se regarder dans un miroir puis de voir les moins belles parties de qu'est-ce qu'il y en a. Puis dans l'avenir, maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Ben, si on est capable de prendre conscience à quelque part de tous ces éléments-là, de que la vie qu'on mène, bon, ben, est en partie reliée à une dépossession historique et des choses comme ça, de certains privilèges qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans le futur? Ben, ceux-là qui vont être dans des positions, peut-être qu'on pourrait en arriver à des ententes de bonne foi avec les communautés. On le voit de plus en plus avec des compagnies d'extraction des ressources naturelles qui vont voir les communautés. Puis c'est ça que quelqu'un, un élu à Lac-Simon me disait, c'est moins pire d'avant parce qu'on commence à avoir des ententes, on commence à avoir des revenus autonomes, on commence à réussir à améliorer certaines conditions, mais... pour en arriver à un certain partage du pouvoir, parce que c'est ça le racisme au début, tu sais, c'est qu'on a voulu tasser les Anishinaabés, les autres nations autochtones pour pouvoir avoir le contrôle sur le territoire. Donc, ces relations-là de pouvoir, quand on les partage un peu, comme on le voit avec les Cris, les Iyou dans le Nord, ben, il y a moins de tensions, puis il y a encore des grands défis au point de vue de tous les traumatismes historiques, puis bien qu'il y ait des conditions matérielles puis financières plus moins rough chez les Cris, il reste qu'il y a encore des grands défis, mais quand on regarde entre les gouvernements, ben on a vu quand même dans le dernier mandat de Legault signer une alliance avec les Cris, puis où il n'y avait pas trop, puis où on se gargarise avec cette belle entente-là qu'on peut avoir avec les peuples autochtones. Donc, est-ce qu'on est capable de reproduire quelque chose où cette entente-là, où les peuples autochtones peuvent avoir leur morceau du gâteau, puis espérer avoir une vie meilleure, tout en restant à Anishinaabe, Atikamekw ou Innu?
C'est ça, là, parce que, tu sais, on a tous le réflexe, là, tu sais, écoute, là, on va se dire les vraies affaires ici cet après-midi, là, OK? Tu sais, on est tous, je me considère sympathique à tout ça, tu sais, j'ose espérer que je me tiens suffisamment au courant, parce que, justement, pour changer des situations, l'information, c'est souvent un bon cheval de bataille. Sauf que, tu sais, combien de fois on a entendu dire qu'on a un body qui travaille pour des contracteurs sur une réserve, puis l'argent coule à flot, puis combien de fois qu'on entend, tu sais, tu comprends, là, il y a plein d'espèces de pseudo-préjugés. Puis tu sais, tu veux pas tomber dans la facilité de dire des niaiseries genre invite-en un à souper chez. Tu comprends là, tu sais, l'espèce de raisonnement là, tu sais, d'un peu maillet là, tu sais, de dire
de colon au sens propre là.
Mais de colon, exactement, tu sais, de reproduire les stigmates du passé là, tu sais, justement, regarde, des niaiseries, genre, moi, j'ai entendu plein de fois des affaires, genre, on va lui mener des sacs d'épicerie, on va, tu sais, puis en même temps, tu sais, on fait pas la réalisation qu'au-delà de ça, il y avait encore des pensionnats dans les années 90, tu sais, c'est comme visa le noir, tu as le blanc, là, tu sais, c'est comme la cible, c'est pas ça, c'est plus grand-angle que ça, puis c'est ça que je trouve, que je trouve plus déficient dans les informations qu'on obtient, dans les problématiques qui sont soulevées, tu sais, fait que c'est ça, c'est un peu comme désarmant, puis tu veux pas prendre possession du problème, parce que, tu sais, je t'entends parler, j'entends tout ce que tu dis pas en même temps, là, tu sais, c'est pas ça dont ces communautés-là ont besoin, ça va au-delà de ça, là, c'est, bien que de se tenir au courant, ça va de soi, là, dans mon livre, dans mon œuvre.
Ouais. Mais c'est pas des enfants qui ont besoin de se faire prendre par la main et consoler.
Mais non, c'est ça, là, c'est pas vision mondiale, là, pis c'est pas, tu sais, là.
Ben, c'est ça, puis c'est en étant informé, à tout de moins, tu sais, ceux-là qui ont le pouvoir, on vit dans un système démocratique très imparfait, là, le système uninominal à un tour fait que des personnes peuvent gérer en majoritaire avec juste 40% des votes.
La représentation.
Il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus, mais il reste que, en s'impliquant, en s'informant, en ayant du monde qui sont conscients de ces problématiques-là, tu sais, on regarde entre l'ère Harper puis l'ère Trudeau, c'est quand même tout un monde. Les quatre premières années où Trudeau était majoritaire, il n'a pas fait des tant que ça, mais depuis qu'il est minoritaire, puis qu'il y a des partis qui peuvent voter avec lui ou non, qui sont plus sensibles à ces causes-là, il y a plus de choses qui ont changé dans le bon sens quand même. Je pense juste à... Je reviens encore à loi C-92 sur la protection de la jeunesse. Ben ça me permet, moi, en tant qu'avocat, d'aller plaider des affaires que je pouvais pas plaider juste avec la loi de la protection de la jeunesse du Québec, puis qui sont assez terribles, tu sais, comme juste de faire en sorte que l'enfant puisse connaître ses racines familiales ou des choses comme ça. C'était pas dans la loi de protection de la jeunesse, mais c'est dans cette loi-là, puis ça me permet quand même de faire un meilleur travail là-dessus, bien que ce soit encore loin d'être parfait.
Mais ça donne un levier au moins pour aller chercher ça.
C'est juste pour revenir à ce que tu disais sur qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, si c'est l'information-là n'aurait pas commencé à être plus connue, puis ça n'aurait pas été quand même, parce que démographiquement, surtout au Québec, dans l'Ouest, ça va être de moins en moins le cas. Si je pense, si je me rappelle bien, c'est la Saskatchewan ou Manitoba, il va y avoir vraiment des grosses parties de la population qui vont être autochtones, puis là, ça va être un pourcentage assez important de l'électorat, mais ici au Québec, à 2% à tout casser, on n'est pas une clientèle électorale.
Ah, c'est ça.
Ben non, ben c'est ça, là, tu sais, c'est pas comme, ben, tu l'avais bien illustré. Mais non, c'est ça, tu sais, tu peux pas te dire on va, entre guillemets, là, tu peux pas, on va y contenter, puis on va, tu sais, ils vont nous amener au pouvoir, tu sais, c'est pour ça qu'ils vont se produire.
C'est pour ça que ça bouge quand il y a des conscientisations qui font suite à des drames comme on a vu dans les dernières années, ou à du monde, justement, qui sont intéressés par ça, puis qui veulent comprendre ça. Donc, c'est là que ça peut être utile, individuellement, au moins, de s'informer, je pense.
On parle beaucoup de dénoncer les affaires épouvantables qui se sont passées, mais une autre chose qui est intéressante à faire, puis je suis là-dedans depuis un certain temps, puis je pense que c'est probablement la meilleure façon de se venger ou de faire un pied de nez à l'Église et au gouvernement canadien qui a essayé de détruire une culture. Je pense qu'une des meilleures choses à faire, c'est de faire survivre cette culture-là, puis de participer à sa propagation, puis s'y intéresser soi-même. Moi, je m'y suis intéressé pas mal. D'ailleurs, on a accueilli, on a aussi aidé à l'élaboration d'une exposition d'un organisme qui s'appelle Minwashing.
C'est ouais, avec Richard, j'imagine.
Oui, avec Richard Kistabich, effectivement. Exposition qui a été développée en 2019, qui a été construite en 2019. Là, on vient de la recevoir au théâtre et on vient de l'envoyer à Paris parce qu'elle sera présentée à l'UNESCO.
Ça
s'appelle Nin, je suis, I am. Donc, ça, pour moi, ça vaut plus que des excuses du pape. C'est, vous voyez, la culture que vous avez essayé d'effacer, là, on va la faire rayonner sur la planète au complet.
Puis c'est un bon exemple, Frank.
Ouais, moi, je trouve que c'est une bonne façon de répondre à ce génocide culturel en montrant que la culture vit encore très bien. Puis j'en ai découvert encore une partie un peu plus profonde parce que j'ai été appelé à faire la narration d'un chapitre du Bestiaire Innu sur le caribou. Mmh. Fait que j'ai appris toute la biologie et la mythologie au travers de l'homme caribou, puis ces choses-là. Fait que c'est passionnant. Fait que moi, ce que je suggère...
T'étais-tu dans ce livre-là?
Oui, ça en plein ça. Non, mais j'ai narré tout le l'homme caribou, tout
sur le caribou. On va recevoir l'auteur à mon émission, c'est pour ça que je l'ai proche.
Ah oui, pour vrai? C'est vraiment ouais. Cool, ça. Puis j'ai trouvé ça super intéressant, c'est riche, il y a du stock, il y a beaucoup d'images, il y a des choses vraiment surprenantes, presque choquantes même des fois dans les légendes, c'est vraiment d'une richesse incroyable, c'est même plus intéressant que juste un traité biologique ordinaire parce qu'on entre la mythologie côtoie la biologie.
Les légendes, s'il y en a qui veulent des affaires un peu hardcore, les légendes Innu du Carcajou.
Ah oui.
Tu vois,
comment il s'appelle l'homme Carcajou, donc il y a un surnom intéressant. En tout cas, je m'en souviens plus, mais il y a un surnom.
En tout cas, bref, il y a des bouts assez particuliers. Puis
c'est Carcajou le décepteur.
Ouais.
Il y a l'homme caribou, il y a Carcajou. Tous les animaux sont représentés de façon humaine là-dedans. Puis la façon que c'est expliqué, que c'est imagé. Moi, j'ai trippé au bout. Si vous pouvez tomber là-dessus, je sais pas si j'aurais le droit éventuellement de rendre ma narration publique, mais en tout cas, je trouve que c'est ma façon en tout cas de contribuer à ça. C'est de contribuer à faire survivre cette culture-là, m'y intéresser moi-même et intéresser d'autres personnes. Je pense que c'est de mettre en échec la mission première de l'Église.
Il y a une autre affaire aussi que si vous me permettez d'ajouter. Moi, je suis très fier de dire que je suis impliqué depuis plusieurs années dans le Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Puis tu vois, dans le cadre de la programmation, ça en fait toujours partie aussi. Ça peut être des artistes là, qui viennent de différentes communautés. C'est pas toujours à saveur locale, entre guillemets, là, c'est-à-dire l'Abitibi-Témiscamingue. Puis tu vois, ça m'a permis de découvrir un paquet d'artistes que j'ai pu faire tourner aussi dans un show que moi je produis qui s'appelle Boom Chick Hour, mais j'ai rencontré un gars super sympathique aussi qui est Normand Guilbeault, qui est un contrebassiste phénoménal. Tu sais, le contre-emploi du contrebassiste de jazz, Normand Guilbeault, tu sais, qui vient je pourrais pas te dire de quelle communauté il vient, mais tu sais, puis en faisant sa connaissance, ben tu sais, j'ai découvert son œuvre, puis c'est intégré aussi à l'œuvre. Tu sais, je pense aussi que d'avoir l'ouverture d'esprit, autant que les artistes ont que nous autres comme mélomanes, tu sais, de consommer justement ça, comme tu consommerais n'importe quoi d'autre, là, et non pas toujours dans s'en faire un point d'honneur parce que, tu sais, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, mais tu sais, c'est de se développer, si on veut, des affinités, ou en tout cas, de se donner au moins la chance de découvrir. Puis après ça, ben, vous le savez tous, les gars, tu parlais de black metal tantôt, peu importe, ben tu sais, ça a une connotation souvent beaucoup plus grande que de juste écouter de la musique. Tu sais, tu veux en apprendre ces artistes, tu veux savoir d'où ils viennent, tu veux, tu sais, puis ça aussi, tu sais, moi, en tout cas, c'est ma petite contribution de mon côté à moi. Puis ça fait, hey, écoute, Frank, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque de la fondation de podcast.com, on avait un show justement qui s'appelait Trois gars t'es quatre. Mm-hmm. Tu sais, une des premières allocutions que j'ai faites de toute ma vie dans un podcast, j'ai parlé. Ça fait longtemps que ça me travaille. Puis tu sais, c'est toujours la même affaire, c'est de trouver des façons de, tu sais, sans arriver avec tes gros sabots, puis tu sais, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, là, tu sais, ah ben moi, tu sais, que ça devienne quelque chose de plus commun et courant, et que ça soit pas toujours justement un événement de dire, hey, regarde ça, j'ai acheté un CD, ben non, mais tu sais, acheter de la musique, puis ça s'avère qu'elle provient d'un artiste qui est de la communauté cri, mettons, tu sais, mais c'est ça, tranquillement, pas vite, j'ai l'impression que ça pourrait justement faire son bout de chemin.
Ouais, puis, moi, je reçois pas mal d'artistes à mon émission, des artistes littéraires, du monde du théâtre, visuel. Puis, bon, ben justement, c'est qu'est-ce qu'on me dit aussi, qu'on sent que ça va au-delà de juste un certain public qui serait autochtone. Je pense à Marguerite, qui était une pièce de théâtre sur la première esclave autochtones, parce qu'il y avait des esclaves autochtones en Nouvelle-France à l'époque, qui s'est battu pour sa liberté, qui s'est allé en cour pour faire reconnaître qu'il était esclave, mais elle avait réussi à se trouver un avocat qui faisait du pro bono pour elle. Elle avait assez de réseau pour réussir à faire une action en cour. Elle a perdu, elle a été renvoyée dans les... je pense à Martinique ou à quelque part dans les Caraïbes, finalement. Mais cette pièce-là, sur Marguerite, bon, ben, elle était sold out. J'avais voulu
ouais, ben, voilà. Mais...
c'est parce que c'était puis juste bon.
Ouais, ben, ouais, c'est ben, c'est ça. Puis on le voit de plus en plus, justement, que les histoires qui... toute la question de la littérature, de l'art, puis tout ça, c'est une façon de se réapproprier le narratif. Parce qu'on nous a beaucoup fait en sorte que d'autres raconteraient une histoire maintenant. C'est ça l'étape qui est en train d'arriver chez beaucoup, de raconter notre propre histoire.
Ouais, ouais, tu sais, puis il y a pas juste puis tout mon respect, mais tu sais, il y a pas juste Buffy Sainte-Marie non plus, là, tu sais, il y a des musiciens qui proviennent de différentes communautés autochtones qui font juste de la bonne musique, là.
Ouais, tu sais, c'est pas toujours il y en a beaucoup qui viennent de Maniotenam.
Ah ben tu vois, mais tu sais, des fois ça n'a pas nécessairement de, il y a pas d'autre enjeu, là, c'est juste bon, là, tu sais, puis c'est comme ça justement que tu sais, chacun fait que si on peut être une courroie de transmission, je pense que c'est ça le dénominateur commun, là, chacun à sa façon dans ses activités courantes à tous les jours, là.
Bon ben, encourager la culture autochtone, intéressez-vous, parce que c'est dur à dire ça.
T'es capable.
Intéressez-y-vous. c'est pas difficile pantoute parce que c'est passionnant. Puis il y a en masse d'artistes dans toutes les disciplines. Puis une autre façon aussi d'acquérir des connaissances et se familiariser avec cette culture-là qu'on côtoie, mais qui de façon tout à fait illogique nous est étrangère beaucoup trop, moi je trouve, c'est d'aller écouter l'émission Koué Bonjour au Canal M. Marquez ça sur Google, vous allez trouver ça, c'est l'émission d'Alexis Bobanolowat qui le co-anime. C'est facile à trouver. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous.
Ben, merci de l'invitation.
Merci mon cher.
Miigwech.
Encore une fois au nom des miens, je reviens sur le tempo. Tant pis si t'aimes pas, moi je les aime trop. Toujours le même combat, avec des mots je débat contre leur politique de merde et leurs secrets d'état. Les couteaux volent bas, chez moi pour mourir, les oiseaux ne se cachent pas. Non, non, y'a plus d'un peuple qui crie à l'aide. Québec, Canada, sous un régime d'apartheid.
Nani gudin kita so sonan ginigyoji to one wani higan misa watch ni paguyan tagwana yamyewen kichi nakachi higuan. Tu l'ignores, ça ne veut pas dire que t'es ignorant. À l'école, on t'apprend qu'ils ont découvert un continent. La vérité est parfois dure à entendre. C'est pour ça qu'ils la cachent depuis plus de 150 ans. J'en ai marre des mensonges, marre d'hypocrisie. J'en ai marre des taches de sang sur le drapeau de mon pays. Sous la tutelle gouvernementale, on ne vit pas dans le même monde. Des réserves indiennes, pauvres comme le tiers-monde. On parle de l'Holocauste, du Rwanda, des millions de morts au Congo. En Amérique du Nord, c'est un génocide. Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens instruits. Nani gudin kita so sonan ginigyoji to one wani higan misa watch ni paguyan tagwana yamyewen kichi nakachi higuan. Au nom des enfants vendus et déracinés, au nom des femmes disparues et assassinées, des femmes ligaturées à leur insu, un génocide bien planifié et ça continue. Enfants des Britanniques au sens de la loi sur les Indiens d'un pays sans foi ni loi. Pour eux, nous ne sommes qu'un sujet, des prisonniers politiques au nom de sa majesté. 69 et leur putain de livre blanc, ou plutôt comment se laver les mains avec le sang des innocents. Ils ont rêvé d'une Amérique blanche, des assassins imprimés sur leurs billets de banque. L'interdiction de parler nos langues, c'est un génocide. Tuer l'Indien à l'intérieur de l'être humain, c'est un génocide. Voler et vendre des enfants, c'est un génocide. Les femmes autochtones disparues et assassinées, c'est un génocide. La Constitution canadienne est un génocide. Nani gudin kita so sonan ginigyoji to one wani higan misa watch ni paguyan tagwana yamyewen kichi nakachi higuan. Nani gudin kita so sonan ginigyoji to one wani higan misa watch ni paguyan tagwana yamyewen kichi nakachi higuan.
Génocide avec Samian. Martin Poutine.
On doit présenter nous aussi des excuses, Frank.
Des excuses papales?
En fait, elles ont une explication fort simple. Et là, ici, je veux parler de nos amis de fromageauvillage.ca, /boutique. Un endroit où vous pouvez vous rendre pour saliver. Mais non seulement saliver, mais vous procurer ces produits du terroir québécois, entreprise familiale, le meilleur fromage ever. Fromageauvillage.ca, /boutique. Et tous les produits que vous allez trouver qui sont présents dans la boutique, en utilisant le code rabais DeepSteak, tout ensemble, vous obtiendrez 10% de rabais sur tous les produits qui sont présents en boutique. Par contre, ben la réalité économique étant ce qu'elle est, c'est-à-dire le prix de l'essence et tout ce qu'on voudra, le contexte géopolitique mondial fait en sorte que, malheureusement, maintenant, ce seront les commandes de 75$ et plus livrées partout au Québec seulement, qui n'auront pas de frais de livraison. Simple réalité à laquelle on ne peut échapper. Mais par contre, ben déjà, hein, ça va être si ce sera votre première commande, ça sera quand même un petit peu quand même modulé par le 10% de rabais que vous aurez sur les produits. Et chose sûre, c'est qu'après les avoir dégustés, vous ne penserez pas au fait que vous en avez acheté pour plus de 75$. Vous allez plutôt vous dire, bon, ben, on essaye-tu un autre. Alors voilà, vous rendez sur fromageauvillage.ca, /boutique. Vous utilisez le code rabais DeepSteak. Il n'y a pas de taxe sur ces produits-là de 1 et de 2, je vous le rappelle une dernière fois, 75$ et plus. Il n'y a pas de frais de livraison partout au Québec. Et c'est suite à un échange avec Hélène et toute la gang. On les remercie d'ailleurs de continuer de collaborer avec nous, c'est-à-dire Christian, Hélène et Anne. Et c'est à leur demande. Donc, les modifications ont été apportées aussi dans les termes et conditions du site web et sur la page d'accueil aussi. Donc, il n'y a pas de surprise. Alors, voilà. Maintenant, une affaire qui ne nécessite pas de consommation d'essence, Frank. C'est bien sûr de faire partie du Deep Steak. Pour ce faire, vous vous rendez sur patreon.com/crachoir, trois niveaux de soutien. Lorsqu'on parle de soutien ici, ben c'est un échange commercial parce qu'on veut pas de dons. Et
a trois produits.
Produits, voilà. Et c'est ben en fait oui et c'est j'aime pas ça dire produits parce que écoute ça
fait mercantile.
Ouais, puis ça n'a pas de date d'expiration. C'est quand tu deviens membre, ben tu es là pour tout le temps. C'est pas des produits.
On a trois niveaux d'accès au contenu.
Bon, j'aime ça. Fait que trois packages, tiens. Ça va être package à Star.
Ah ouais, bon anglicisme qui englobe
yes
tout.
Sir. Yes sir. Donc, trois packages qui vous offrent évidemment différents avantages et différents forfaits. Et pour ce faire, patreon.com/crachoir, allez faire un tour. Et comme je le dis souvent, c'est pas un contrat de cellulaire signé avec votre sang que, tu sais, si vous voulez avoir l'iPhone 13 ou le S28, vous n'aurez pas de courbature ou quoi que ce soit. Venez faire un tour, joignez vous à notre communauté. Donc, vous avez accès à, bien sûr, le mythique fridge et un paquet d'autres avantages, en plus de contenu exclusif, dont les épisodes Deep Steak, que je suis bien content qu'on ait repris, Frank, ça faisait trop longtemps, et les Conspi Popettes, bien sûr, qui sont en production perpétuelle et de nouveaux personnages qui s'en viennent. Et une nouvelle bébelle aussi sur laquelle on travaille qui va être annoncée probablement cette semaine et qui est d'ailleurs un de tes bébés, Frank. Mais j'ai bien hâte qu'on embarque là-dedans. Avec l'arrivée du beau temps, les nouveaux projets, hein? Oh, cuit, les petits oiseaux.
Ah, ça va être tout un été. En tout cas, pour moi, ça va en être tout un.
Ouais, bon, ben voilà. Fait que.
Et pour répondre à la Hall Stakers qui voudrait m'acheter. Parce qu'elle a besoin d'aide à la maison. Ben je suis très achetable, mais je suis pourri pour. Je suis vraiment pas manuel. Là. Si tu me donnes un marteau, je vais planter des vis avec. Là,
tu vas blesser du monde.
Je vais me blesser moi.
ça va mal finir.
J'ai travaillé un peu dans la construction. J'étais bon dans la démolition.
Bon ouais, non mais tu sais dans la construction là. Va chercher du café, va donc pogner lunch. Il faudrait aller chercher une commande de boat. Ça, tu devais être très fiable.
Non, mais moi, tu me donnes une masse, là, puis tu me dis démolis ça. Là, puis pour vrai, j'avais beaucoup de fun à faire ça, puis je scrapais aucun tuyau ni fil électrique. Fait que tu sais, j'étais bon en démolition, mais mon inaptitude en mathématiques et en visualisation et géométrie fait que j'étais moins bon pour la construction. Mon manque d'intérêt ben, aussi.
Écoute, peut-être qu'on pourra faire comme ça a été le cas dans plusieurs œuvres caritatives, tu sais, acheter Frank pour 2-3 jours.
Trouver de quoi démolir.
Ouais, c'est ça, si vous avez dans l'idée de démolir des affaires ou tu sais, peu importe. Mais voilà, fait que. Mais là, Frank, je te laisse la parole parce que les All Stakers ont été mis à contribution pour la pièce de sortie, là.
Ah oui, ben oui, ben oui. On a trouvé le titre. D'ailleurs, le titre de l'émission, on l'a trouvé pendant l'émission grâce aux All Stakers. Pour ceux qui ne sont pas des All Stakers, sachez que les meilleurs titres sont souvent trouvés par des All Stakers. Et puis, on a trouvé ce titre-là, Papal Don't Preach, évidemment, en lien avec la visite du pape. Et on a fait appel à nos All Stakers pour trouver la meilleure version, soit metal, rock, punk, whatever, de Papa Don't Preach de Madonna, parce qu'en fin de show, il n'est pas question qu'on passe une version originale. Et on nous a... est arrivé pour nous, sur un plateau d'argent, cette version magistrale d'un groupe qui s'appelle Dostig, Papa Don't Preach. On se quitte là-dessus, c'était le Crachoir, épisode 204. Papal Don't Preach. Papa, I know you're gonna be upset. I was always your little girl, but you should know by now I'm not a baby. You always taught me right from wrong. I need your help, Daddy, please be strong. I may be young at heart, but I know what I'm saying. The one you want me all about, the one you said I could do without. When we're in awfulness, and I don't. I've been here for
membre de la famille H2O Web Media.